Section 8. Au service des personnes éprouvées. Au sein des ténèbres spirituelles, la gloire de Dieu doit resplendir par l'intermédiaire de son Église, en relevant les opprimés et en réconfortant les affligés. Les gémissements d'un monde éprouvé s'élèvent tout autour de nous. Partout on voit des pauvres et des gens dans la détresse. C'est à nous qu'incombe le devoir de soulager et d'adoucir les tribulations et les misères de la vie. Seul l'amour du Christ peut répondre aux besoins de l'âme. Si Jésus demeure en nous, notre cœur débordera de sympathie divine. Les sources d'un zèle ardent jailliront sous l'impulsion d'un amour semblable à celui du Sauveur. Chapitre 25. Notre devoir envers les malheureux. Je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Job 29, versets 12 à 16. Compassion pour les aveugles, les paralytiques et les affligés. Ceux qui ont compassion des malheureux, des aveugles, des paralytiques, des affligés, des veuves, des orphelins et des nécessiteux sont considérés par le Christ comme des observateurs des commandements de Dieu qui hériteront la vie éternelle. Sympathie refroidie. Lorsqu'il voit ce que le ciel a fait pour sauver les pécheurs, comment les participants des richesses de la grâce du Christ peuvent-ils se désintéresser de leurs semblables? Comment peuvent-ils s'enorgueillir de leur rang et mépriser les déshérités et les pauvres? Il n'est que trop vrai que l'orgueil du rang et l'oppression du pauvre, qui prévalent dans le monde, existent aussi parmi ceux qui se disent disciples du Christ. Pour beaucoup, la sympathie qui devrait s'exercer d'une manière toute particulière envers l'humanité semble se refroidir. Les hommes s'approprient les dons qui leur ont été confiés au lieu d'en faire profiter d'autres. Le riche écrase le pauvre et emploie son argent à satisfaire son orgueil et son amour de l'apparat, même dans la maison de Dieu. Si le Seigneur n'avait pas révélé son amour envers le pauvre, au cœur contrit, ce monde serait bien triste pour ce dernier. Se mettre à la place du frère dans le malheur. Lorsqu'un croyant s'efforce honnêtement de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille sans pouvoir y parvenir et manque de nourriture et de vêtements, le Seigneur ne tiendra pas nos frères pour innocents s'il considère ce cas avec indifférence ou recommande à cet homme certaines choses qu'il est virtuellement incapable de faire. Il faut se mettre à la place de ceux qui sont dans l'adversité. Une négligence de la part de ceux qui se disent disciples du Christ, une occasion manquée de venir en aide à un frère ou à une sœur qui gémissent sous le joug de la pauvreté et de l'oppression, tout cela est enregistré dans les livres du ciel comme une offense faite au Christ dans la personne de ses saints. Quel compte devront rendre au Seigneur un très grand nombre de ceux qui prêchent aux autres la parole du Christ, mais ne manifestent pas leur sympathie et leur sollicitude pour un frère en la foi qui est moins favorisé qu'eux. Si vous connaissiez les circonstances par lesquelles ce frère est passé, et si vous n'avez pas fait l'impossible pour le secourir, pour changer en liberté son oppression, vous n'avez pas accompli les œuvres du Christ, et vous êtes coupable devant Dieu. Je m'exprime clairement, car selon la lumière qui m'a été donnée par le Seigneur, il y a un aspect de l'œuvre qui a été négligé. Il est possible qu'on ait montré un grand intérêt pour des achats en gros destinés à procurer de la nourriture à ceux qui vivent dans la pauvreté. Je n'ai, à cet égard, aucune objection à formuler, mais c'est un zèle mal dirigé si nous négligeons nos frères dans la foi et laissons leurs cris monter jusqu'au ciel à cause de souffrances qui pourraient être soulagées et si nous ne représentons pas Jésus-Christ dans la sympathie et dans l'amour. Le Seigneur nous reprochera cette négligence. Il ne peut dire « cela va bien » à un homme ou à une femme qui ne possède pas les attributs du Sauveur, la bonté, la compassion et l'amour envers ses semblables. Procurez des foyers à ceux qui en sont dépourvus. Il m'a été montré, il y a déjà des années, que le peuple de Dieu serait mis à l'épreuve au sujet du devoir qui consiste à procurer des foyers à ceux qui en sont dépourvus. Que beaucoup de ceux qui en étaient réduits à cette extrémité le devaient à leur amour de la vérité, que l'opposition et la persécution priveraient les croyants de leur foyer, et que ceux qui en possédaient devraient ouvrir leur maison à ceux qui n'en avaient pas. Il m'a été montré plus récemment que Dieu éprouverait spécialement sur ce point ceux qui se réclament de son nom. Par amour pour nous, le Christ s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Il est mort afin de procurer une demeure aux pèlerins et aux étrangers qui cherchent une patrie, à savoir la céleste. Ceux qui participent à sa grâce, qui s'attendent à hériter de l'immortalité, refuseront-ils de partager leur foyer avec ceux qui sont sans asile? Nous qui sommes disciples du Christ, fermerons-nous nos portes aux étrangers parce qu'ils n'ont aucun lien de parenté avec nous? L'injonction de l'apôtre n'a-t-elle plus aucune force à nos yeux? N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Notre Père Céleste sème des bénédictions déguisées sur notre sentier, mais certains n'en profitent pas de crainte d'être privés de leur plaisir. Les anges nous observent pour se rendre compte si nous saisissons les occasions qui se présentent à nous de faire le bien, si nous désirons être en bénédiction aux autres, afin qu'à leur tour, ils soient à même de nous faire du bien. J'ai entendu bien des personnes s'excuser de ne pas inviter chez elles les enfants de Dieu. « Je n'ai rien de prêt, disait-elle, je n'ai pas fait de cuisine, il vaut mieux qu'ils aillent ailleurs. » Les prétextes pour ne pas recevoir ceux qui ont besoin d'hospitalité abondent. Les visiteurs sont profondément déçus et ont une mauvaise impression en constatant le manque d'hospitalité de ces soi-disant frères et sœurs. Si vous n'avez pas de pain, ma sœur, imitez l'homme de la parabole du Sauveur. Allez trouver votre voisin et dites-lui « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Nous n'avons donc aucune excuse pour refuser de recevoir une visite. Quand Élie se rendit chez la veuve de Sarepta, elle partagea le morceau de pain qui lui restait avec le prophète, et il opéra un miracle. En recevant Élie et en partageant son pain avec lui, elle fut elle-même rassasiée. Sa vie et la vie de son fils furent préservées. Plusieurs feront une expérience semblable s'ils agissent de la même manière, avec joie et pour la gloire de Dieu. Le corps de l'Église responsable de la négligence de ses membres, Dieu tiendra l'Église pour responsable, en tant que corps, de la mauvaise manière dont se conduisent ses membres. Si l'on tolère un esprit égoïste et dépourvu de sympathie envers les malheureux, la veuve, l'orphelin, le paralytique et le malade de corps ou d'esprit, le Seigneur cachera sa face à son peuple, jusqu'à ce qu'il accomplisse son devoir et ôte le mal de son sein. Si quelqu'un se réclame du nom du Christ et le présente sous un faux jour au point d'oublier son devoir envers les affligés, ou s'il cherche son avantage en portant préjudice aux malheureux et le prive ainsi de ses moyens d'existence, le Seigneur tient l'Église pour responsable du péché de ses membres. Il n'exaucera pas la prière de son peuple si celui-ci néglige les orphelins, les paralytiques, les aveugles et les malades. Un rapport fidèle est tenu dans le ciel. Le Christ considère tout acte de miséricorde, de bienfaisance ou d'amabilité envers les malheureux, les aveugles, les malades, les veuves et les orphelins, comme s'il en était lui-même le bénéficiaire. Le ciel l'enregistre fidèlement et il sera récompensé. Il enregistre aussi la conduite de ceux qui se montrent indifférents aux malheureux, à l'exemple du prêtre et du lévite, et de ceux qui profitent du malheur des autres. Chapitre 26. Encourager et aider les veuves. Les droits des veuves et des orphelins, parmi tous ceux dont les besoins réclament notre attention, la veuve et l'orphelin sont les premiers à qui nous devons témoigner notre sympathie et nos soins. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Le Père qui est mort dans la foi en se reposant sur l'éternelle promesse de Dieu a quitté ses bien-aimés pleinement confiant que le Seigneur prendrait soin d'eux. Comment le Seigneur interviendra-t-il? Il ne fera pas un miracle en envoyant la manne du ciel ou des corbeaux pour les nourrir, mais en bannissant l'égoïsme des cœurs, en faisant jaillir les sources de l'amour chrétien. Il mettra à l'épreuve l'amour de ceux qui se disent ses disciples en faisant appel à leur tendre miséricorde en faveur de ceux qui sont dans l'affliction et le deuil, des pauvres et des orphelins. Ce sont là, dans un sens tout particulier, les petits sur lesquels se posent les regards du Christ. Ceux qui les négligent, négligent le Christ dans la personne des affligés et l'offense. Tout acte de bonté à leur égard, accompli au nom de Jésus, est considéré par lui comme fait à lui-même, car il identifie ses intérêts avec ceux de l'humanité souffrante. Il a confié à son Église la grande mission de travailler pour lui en venant en aide aux malheureux. la bénédiction divine reposera sur tous ceux qui s'occupent d'eux avec un cœur généreux. Accorder une aide tangible à la veuve, alléger ses fardeaux. Beaucoup de mères, restées veuves, luttent héroïquement sous le poids de leur double fardeau, travaillant souvent au-delà de leurs forces pour subvenir aux besoins de leurs chers enfants et les garder près d'elles. Elles ont bien peu de temps à consacrer à l'éducation et à l'instruction de ces derniers, et rares sont les occasions qui leur permettraient d'avoir quelques distractions. Elles ont besoin d'encouragement, de sympathie et d'aide matérielle. Dieu nous appelle à remplacer dans la mesure du possible, auprès de ses enfants, le père qui n'est plus. Au lieu de nous tenir à l'écart et de nous plaindre de leurs espiègleries et du dérangement qu'ils peuvent nous causer, venons à leur secours autant que faire se peut. Cherchons à soulager la mère rongée de soucis. Allégeons son fardeau. Soyons les intermédiaires par lesquels Dieu répand ses bienfaits. Dans les maisons pourvues de tout le confort désirable, dans les greniers chargés de récoltes abondantes, dans les magasins remplis d'étoffes et de vêtements, dans les coffres où sont entassés l'or et l'argent, se trouvent les moyens de subsistance que Dieu tient en réserve pour les nécessiteux. Il nous demande d'être les auxiliaires de sa munificence. L'assistance aux veuves est confiée à ceux qui sont prospères. Il y a parmi nous des pauvres, des sans-asile et des veuves. J'ai entendu un riche fermier décrire la situation d'une veuve de sa connaissance. Il se lamentait au sujet des circonstances difficiles par lesquelles elle passait. « Je me demande, disait-il, comment elle fera pour supporter les frimas de l'hiver ?» Il avait oublié le grand modèle, et par ses actes il disait « Non, Seigneur, nous ne pouvons pas boire à la coupe du renoncement, de l'humiliation et du sacrifice que tu as bu, ni être baptisé du baptême de la souffrance dont tu as été baptisé. Nous ne pouvons pas vivre pour faire du bien aux autres. Prendre soin de nous-mêmes nous occupe suffisamment. » Qui peut savoir comment la veuve se tirera d'affaire si ce n'est les frères dont les greniers sont bien remplis? Le moyen pour qu'elle y arrive est tout trouvé. Les économes de Dieu oseront-ils négliger les disciples du Christ qui sont dans le besoin? Si oui, ils négligent Jésus. Vous attendez-vous à voir le Seigneur faire tomber du ciel le grain pour soulager les nécessiteux? N'en a-t-il pas placé entre vos mains pour venir en aide à ces derniers par votre moyen? N'a-t-il pas fait de vous ses instruments pour cette bonne œuvre, afin de vous donner le privilège de posséder un trésor dans le ciel? Mes frères, pour l'amour du Christ, remplissez votre vie de bonnes œuvres. Tout ce que vous possédez appartient au Seigneur. Prenez garde que votre égoïsme ne vous amène à thésauriser les munificences dont il vous a comblé pour venir en aide à la veuve et à l'orphelin. Les chrétiens possèdent en abondance pour les nécessiteux. Les chrétiens sont inexcusables de laisser les cris de la veuve et les prières de l'orphelin monter jusqu'au ciel à cause de leurs souffrances, alors qu'une providence libérale a placé entre les mains de certains d'entre eux tout ce qui est nécessaire pour subvenir à leurs besoins. Que les cris de la veuve et des orphelins n'attirent pas sur l'Église la vengeance céleste. Dans le monde qui se dit chrétien, l'argent dépensé en bijoux et en ornements suffirait à nourrir tous ceux qui ont faim et à vêtir tous ceux qui sont nus dans nos villes et nos villages. Et cependant, ces soi-disant disciples du doux et humble Jésus ne sont guère disposés à se priver d'une nourriture appropriée et de vêtements convenables. Que diront ces membres d'Église au jour du jugement, lorsqu'ils seront confrontés avec les pauvres, les affligés, les veuves et les orphelins qui ont manqué du nécessaire, alors que, pour des vêtements coûteux ou des ornements inutiles, expressément défendus par la parole de Dieu, ils dépensaient des sommes folles qui auraient suffi à subvenir à tous les besoins? Ne négligez pas ceux qui sont près de vous. Pour chaque don et chaque offrande, les donateurs devraient avoir un but précis, non celui de venir en aide aux paresseux ou d'être vu des hommes ou encore d'acquérir une grande renommée, mais celui de glorifier Dieu et de faire avancer sa cause. D'aucuns peuvent faire de gros dons à l'Église de Dieu, alors que tout près d'eux souffre un frère pauvre qu'ils ne cherchent pas à soulager. De petits actes de bonté, accomplis secrètement en faveur de leurs frères, les uniraient ensemble et seraient notés dans le ciel. J'ai vu que les riches devaient favoriser les affligés, les veuves et les pauvres qui sont parmi eux. Dieu entend la prière de la veuve. Les lois données à Israël protégeaient tout particulièrement les intérêts de ceux qui avaient besoin d'aide. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Que ceux qui font partie de nos églises et ceux qui occupent des postes de confiance dans nos institutions trouvent dans ces paroles la manière dont le Seigneur protège les intérêts des personnes qui ne peuvent se tirer d'affaires toutes seules. Il entend le cri des veuves pour leurs enfants privés de père. Il amènera sûrement en jugement ceux qui méprisent les règles qui leur servent de bouclier. Et cependant, malgré les avertissements du Seigneur, il en est qui ne craignent pas de porter préjudice à la veuve et à l'orphelin. La parole de Dieu est parvenue jusqu'à eux, mais ils refusent de changer leur conduite en venant en aide aux nécessiteux. Ils détournent l'oreille de la plainte de l'orphelin. Ils sont indifférents aux larmes et aux prières des veuves. Visitez les veuves. Visiter les veuves et les orphelins, selon la recommandation de l'apôtre, consiste à manifester une sympathie chrétienne sanctifiée à l'égard de ceux qui sont dans l'affliction, à épouser leurs intérêts, à travailler pour eux, à renoncer à ses aises pour les aider. C'est leur donner des conseils chrétiens, s'unir à eux dans la prière et avoir sans cesse à l'esprit que Jésus-Christ est présent dans toutes ses visites et qu'un récit fidèle du but poursuivi et de l'œuvre accomplie par des croyants sera conservé pour prouver qu'ils sont des hommes et des femmes convertis. Ils montreront qu'ils lisent la Bible, croient ce qu'elle dit et lui obéissent. Ils ne chercheront pas à susciter de la sympathie pour eux-mêmes en parlant mal d'une femme ou d'un mari. Ils ne penseront qu'à faire du bien aux autres en s'oubliant eux-mêmes. Ils seront en bénédiction à l'humanité car c'est là la volonté de Dieu. Ils marcheront avec circonspection et révéleront le caractère du Christ. En s'occupant des veuves et des orphelins, ils feront ce qu'ils voudraient qu'on leur fasse si leurs femmes devenaient veuves et leurs enfants orphelins. Tous ceux qui se disent enfants de Dieu devraient penser qu'un témoin assiste à chaque transaction et enregistre chaque acte dont il sera donné connaissance au grand jour, lorsque chacun recevra selon ses œuvres, à moins que ses péchés n'aient été effacés après avoir été confessés par le pécheur repentant. Toute injustice faite à un enfant de Dieu ou à un pécheur recevra alors son châtiment. Le Christ identifie ses intérêts avec ceux de son peuple dans toutes ses afflictions. Le Seigneur vengera ceux qui maltraitent la veuve et l'orphelin ou qui leur nuisent d'une manière ou d'une autre. Nos responsabilités ne diminuent pas. Chaque pauvre, chaque âme a besoin de lumière, de tendresse, de sympathie, de paroles d'espérance. Chaque veuve a besoin d'être secourue et d'entendre des propos réconfortants et encourageants. Une grande œuvre doit être accomplie dans notre monde. En approchant de la fin de l'histoire de la terre, elle ne diminue pas. Bien au contraire. Lorsque le parfait amour de Dieu règne dans un cœur, des choses merveilleuses se réalisent. Le Christ est dans le cœur du croyant comme une source jaillissante jusque dans la vie éternelle. Chapitre 27. Le soin des orphelins. Nécessité d'avoir des pères et des mères convertis, jusqu'à ce que la mort soit engloutie dans la victoire, il faudra s'occuper des orphelins. Ils souffriront de différentes manières si la tendre compassion et la bonté de nos membres d'Église ne s'exercent pas à leur égard. Le Seigneur nous exhorte en ces termes. Recueille le pauvre sans asile. Le christianisme doit donner des pères et des mères à ceux qui n'ont pas de foyer. La compassion pour la veuve et l'orphelin, manifestée par la prière et par des actes, montera jusque vers Dieu et ne tardera pas à recevoir sa récompense. Le Christ nous demande de nous charger de ses enfants. Les enfants qui n'ont ni père ni mère sont confiés aux bons soins de l'Église. Le Christ dit à ses disciples de s'en charger et de les lui amener. Ils recevront leur récompense. Mais à cet égard, j'ai constaté beaucoup d'égoïsme. À moins que certains de nos membres n'aient la preuve certaine qu'ils retireront eux-mêmes quelque avantage en adoptant ces enfants, ils s'en désintéressent totalement. Leur salut ou leur perte les laissent indifférents. Ceci n'est pas leur affaire, pensent-ils. À l'instar de Caïn, ils disent « Suis-je le gardien de mon frère ?» Ils ne désirent nullement se mettre dans l'embarras ni faire quelque sacrifice pour les orphelins. Ils sont prêts à les jeter dans les bras du monde, mieux disposés parfois à les accueillir que ces soi-disant chrétiens. Au dernier jour, Dieu redemandera des comptes pour ces enfants que le ciel leur avait donné l'occasion de sauver. ils se sont récusés, ils n'ont voulu accomplir de bonnes œuvres que poussés par l'intérêt. Il m'a été montré que ceux qui refusent de profiter des occasions de faire le bien entendront un jour ces paroles. Toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Ouvrez vos cœurs et vos foyers. Mon mari et moi, bien qu'absorbés par un dur labeur dans le ministère, avons eu le privilège d'accueillir à notre foyer des enfants nécessiteux et de les aider à former des caractères pour le ciel. Nous n'avons pas voulu les adopter, car cela aurait occupé notre temps et notre esprit au détriment du service que le Seigneur réclamait de nous pour le salut des âmes. Mais nous avions le sentiment que les instructions d'Ésaïe 58 nous concernaient, et que la bénédiction du Seigneur reposait sur nous puisque nous obéissions à sa parole. Tous peuvent faire quelque chose pour les nécessiteux, en les plaçant dans des foyers où l'on pourra en prendre soin. Manuscrit. Un vaste champ d'activité s'offre à tous ceux qui veulent travailler pour le Maître en prenant soin de ses enfants et de ses adolescents qui ont été privés de la direction vigilante de parents et de la douce influence d'un foyer chrétien. Parmi eux, beaucoup ont hérité de mauvais traits de caractère, et si on les laisse grandir dans l'ignorance, ils feront des connaissances qui pourront les entraîner au vice et au crime. Ces jeunes peu prometteurs devraient être placés dans des conditions favorables à la formation d'un bon caractère afin qu'ils puissent devenir des fils et des filles de Dieu. Vous qui professez être enfants de Dieu, remplissez-vous le rôle qui vous incombe à l'égard de ces orphelins qui ont tant besoin qu'on leur apprenne avec patience comment venir au Sauveur. Ces êtres incultes, peut-être mal équilibrés, se soucient-ils de l'amour que le Christ a manifesté pour nous? Faites-vous votre part comme fidèles serviteurs du Christ. Ces jeunes sont en danger de perdre leur âme si on les abandonne à eux-mêmes. Ils ont besoin d'une instruction persévérante, besoin d'amour et de tendresse chrétienne. N'y aurait-il aucune révélation pour nous indiquer notre devoir? Ce que nous avons sous les yeux et ce que nous savons des résultats inévitables de cause à effet suffirait pour nous pousser à aller au secours de ces infortunés. Si les membres d'Église apportaient dans cette œuvre la même énergie, le même tact, la même habileté qu'ils consacrent aux affaires ordinaires de la vie, s'ils recherchaient la sagesse d'en haut et s'ils examinaient sérieusement comment modeler ces esprits indisciplinés, beaucoup d'âmes qui sont sur le point de périr seraient sauvées. Frères et sœurs, je vous demande de considérer sérieusement ce sujet. Pensez aux besoins de ceux qui n'ont ni père ni mère. Vos cœurs ne sont-ils pas touchés à la vue de leurs souffrances? Voyez si quelque chose ne peut être fait pour eux. Autant qu'il dépend de vous, procurez un foyer à ceux qui n'en ont pas. Que chacun soit prêt à faire sa part dans cette œuvre. Le Seigneur dit à Pierre, « Paix mes agneaux ». Ce commandement est aussi pour nous. En ouvrant notre foyer aux orphelins, nous contribuons à son accomplissement. Que Jésus ne soit pas déçu à notre sujet. Prenez ces enfants et présentez-les au Seigneur comme une offrande d'agréable odeur. Demandez-lui de les bénir, puis efforcez-vous de les modeler selon l'ordre du Christ. Notre peuple acceptera-t-il ce saint mandat? Ceux pour lesquels le Christ est mort devront-ils souffrir et s'engager dans de faux sentiers à cause de notre piété superficielle et de nos ambitions mondaines? Ils sont la propriété de Dieu. Prêtés par le Seigneur aux chrétiens, les orphelins sont trop souvent négligés, et pourtant ils ont la même valeur que nous-mêmes aux yeux du Très-Haut. Il faut en prendre soin, il faut leur accorder une attention toute particulière. Vous ne sauriez mieux dépenser votre argent qu'en leur ouvrant vos portes. Si le Seigneur voit que vous êtes fidèles en faisant ce que vous pouvez pour soulager la misère humaine, il en inspirera d'autres pour trouver les moyens afin de secourir ceux qui sont dans le besoin. En s'engageant de tout cœur dans cette œuvre, on ne fait que son devoir. Le Christ est notre exemple. Bien qu'étant la majesté du ciel, il a fait pour les hommes ce qu'aucun de nous ne pourrait accomplir. Vous êtes ouvriers avec Dieu. Que nul ne se permette de faire des dépenses inutiles pour satisfaire l'orgueil et la vanité. Mettez vos petites pièces et vos sommes importantes à la banque du ciel, où elles seront en sécurité. Beaucoup de ceux qui ont eu de précieuses occasions de se charger du joug du Christ dans cette œuvre précieuse ont refusé de le faire. Il ne leur a pas plu de pratiquer le renoncement, et ils ont négligé de prendre soin des pauvres et des malheureux. Ils n'ont pas écouté les injonctions du Christ et développé les talents que Dieu leur a confiés. Ils n'ont pas collaboré avec les êtres célestes en recueillant des êtres qui serviraient le Christ, honoreraient et glorifieraient son nom. Conseil aux parents adoptifs. Chers frères et chères sœurs D, Votre dernière visite et notre conversation m'ont donné de nombreux sujets de réflexion, et je ne peux m'abstenir de venir, par lettre, vous parler de quelques-uns d'entre eux. J'ai été très peiné que eux ne se soient pas toujours bien conduits, mais après tout, vous ne pouvez pas vous attendre à trouver la perfection chez des jeunes de son âge. Les enfants commettent des fautes, et ils ont besoin que l'on use envers eux de beaucoup de patience. Que ces sentiments n'aient pas toujours été convenables, il n'y a là rien d'étonnant pour un enfant. Souvenez-vous qu'il n'a ni père ni mère, ni d'autres parents à qui confier ses sentiments, ses tristesses et ses tentations. Chacun a besoin de sympathie. Ce garçon a été ballotté de l'un à l'autre. Il peut avoir commis de nombreuses erreurs, de nombreuses négligences, être très indépendant et manquer de révérence, mais il est très entreprenant. S'il est bien conseillé et traité de la bonne manière, j'ai la certitude qu'il ne décevra pas vos espérances et que vous serez pleinement récompensé de tous vos efforts à son égard. Malgré ses désavantages, je crois que c'est un très brave garçon. Quand nous vous avons demandé de le prendre, nous avons agi avec la conviction profonde que tel était votre devoir et qu'en le faisant, vous seriez béni. Nous n'avons pas pensé que vous l'accompliriez simplement pour profiter des services qu'il pourrait vous rendre, mais pour vous occuper d'un orphelin, devoir dont chaque chrétien devrait chercher à s'acquitter et qui vous serait bénéfique si vous le faisiez avec joie. Pour être un instrument entre les mains de Dieu et sauver des griffes de Satan l'âme d'un enfant dont le Père a voué sa vie précieuse à amener des âmes à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En ce qui concerne eux, je vous prie de ne pas oublier que c'est un enfant qui n'a que l'expérience de son âge. Ne comparez pas ce pauvre et faible garçon avec vous-même et n'attendez pas de lui ce qu'il ne saurait donner. Je crois sincèrement qu'il est en votre pouvoir de faire du bien à cet orphelin. Vous pouvez lui rendre les choses attrayantes pour qu'il n'ait pas le sentiment que sa tâche est désagréable et qu'il est privé d'encouragement. Vous pouvez, mon frère et ma sœur, jouir d'une confiance réciproque, sympathiser et vous distraire ensemble, vous faire part de vos épreuves et de vos difficultés. Vous avez bien des raisons de vous encourager mutuellement, tandis qu'il est seul. C'est un garçon réfléchi, mais qui n'a personne à qui se confier ou qui pourrait lui donner un mot d'encouragement au sein des tribulations par où je sais qu'il passe, comme ceux qui sont plus avancés en âge. Si vous vous repliez sur vous-même, vous manifestez un amour égoïste que le ciel ne saurait bénir. J'ai toutes les raisons d'espérer que vous aimerez cet orphelin pour l'amour du Christ, que vous aurez le sentiment que vos biens ont peu de valeur si vous ne les employez pas à être utiles. Faites de bonnes œuvres, soyez-en riches, donnez volontiers, déposez votre trésor en lieu sûr en vue des temps futurs, afin d'obtenir la vie éternelle. Seul celui qui se sacrifie aura comme récompense une vie qui ne finira point. Un père et une mère qui se mouraient ont confié leurs enfants aux soins de l'Église pour qu'elle les initie aux choses de Dieu et les prépare pour le ciel. Lorsque ses parents verront ce que sont devenus leurs bien-aimés et que l'un d'entre eux est absent parce qu'il a été négligé, que leur dira alors l'Église? C'est elle qui est en grande partie responsable du salut de ces orphelins. Très probablement, vous n'avez pas réussi à gagner la confiance et l'affection de ce garçon en ne lui donnant pas davantage de preuves tangibles de votre amour et en ne l'encourageant pas assez. Si vous ne pouvez dépenser de l'argent en sa faveur, montrez-lui que vous n'êtes pas indifférent à son cas. C'est une erreur de croire que l'affection ne doit exister que d'un seul côté. Quelle est celle que vous avez décidé de manifester? Vous vous repliez trop sur vous-même et vous ne voyez pas la nécessité de vous entourer d'une atmosphère de tendresse et de bonté qui procède de la vraie noblesse de l'âme. Frères et sœurs F ont confié leurs enfants aux soins de l'Église. Plusieurs membres de leur parenté auraient voulu s'en charger. Mais ce sont des incroyants, et s'ils les avaient pris chez eux, ils auraient mis en danger leur salut en les détournant de la vérité. Parce que l'on n'a pas permis à ses parents de s'occuper de ses petits, ils furent mécontents et s'en désintéressèrent. N'oublions pas que le père et la mère ont placé leur confiance dans l'Église. Nous avons pour ces enfants une affection toute particulière. L'un d'eux, une jeune fille, a déjà rendu un bon témoignage chrétien et a épousé un ministre de l'Évangile. Aujourd'hui, en retour des soins qu'elle a reçus, elle est un véritable soutien dans l'Église. Ceux qui sont moins expérimentés qu'elle recherchent avec profit ses conseils. Elle possède la véritable humilité, une dignité qui peut inspirer le respect et la confiance chez tous ceux qui la connaissent. Je considère ces enfants comme si c'était les miens. Je ne les perds pas de vue et je ne cesse de m'occuper d'eux. Je les aime sincèrement, tendrement, affectueusement. Jugez par ce qu'ils n'ont pas fait. Il y a des orphelins dont il faut s'occuper, mais certains ne veulent pas s'en charger, car ce serait pour eux un supplément de travail et ils n'auraient plus assez de temps pour s'occuper de leur personne. Mais lorsque le roi des rois demandera des comptes à ces êtres égoïstes, ils s'apercevront que le ciel est réservé à ceux qui ont renoncé à eux-mêmes pour l'amour du Christ. Aucune protection ne sera accordée aux êtres qui n'ont pensé qu'à eux. Le terrible châtiment du roi qui s'abattra sur ceux qui sont à sa gauche n'est pas dû, dans ce cas, à leur crime. Ils sont condamnés non pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils n'ont pas fait. « Vous ne m'avez pas fait, leur dira-t-il, ce que le ciel vous avait commandé. Vous n'avez pensé qu'à vous, et vous serez traités en conséquence. » Soyez des filles de la bonté, je dirai à nos sœurs. Soyez des filles de la bonté. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Peut-être pensez-vous que si vous trouviez un enfant sans défaut, vous le prendriez à la maison. Mais vous occupez d'un jeune auquel il faudrait désapprendre beaucoup de choses pour lui en enseigner de nouvelles, voilà une tâche que vous refusez d'entreprendre. Instruire l'ignorant, réformer ceux qui n'ont appris que le mal, n'est pas chose facile. Mais de telles créatures, placées par le ciel sur votre chemin, sont des bénédictions déguisées. Ibidem. Celles qui ont un vrai cœur de mère, les mères qui ont sagement élevé leurs enfants, ont le sentiment de leur responsabilité, non seulement à leur égard, mais aussi à l'égard des enfants des autres. La sympathie d'une mère véritable s'exerce envers tous ceux avec lesquels elle entre en contact. Elle fait tous ses efforts pour amener au Christ les âmes égarées. En s'appuyant sur la force du Seigneur, elle peut faire beaucoup de bien. Celles qui n'ont pas d'enfants ont aussi certaines responsabilités. Elles ont de nombreuses occasions de recevoir sous leur toit des orphelins sans asile, auxquels elles pourront, pour l'amour du Christ, apprendre à pratiquer les vertus dont le monde a aujourd'hui un si pressant besoin. Que le cœur de chaque mère soit touché par la condition de ces orphelins, et que leur amour maternel s'exerce à leur égard. Il faut, pour ces pauvres enfants, mettre à réquisition tous les attributs que le Seigneur a placés dans le cœur humain. Dans l'atmosphère affectueuse d'un foyer chrétien, beaucoup d'enfants sont privés de la tutelle de leurs parents et de l'influence d'une famille pieuse. Que les chrétiens ouvrent leur cœur et leur maison à ces infortunés. Cette œuvre que Dieu leur a personnellement confiée ne devrait pas être abandonnée à quelque institution de bienfaisance ou au hasard de la charité publique. Si ces enfants n'ont personne parmi leurs parentés qui puisse en prendre soin, il incombe aux membres de l'Église de leur procurer un asile. Le dessein de notre Créateur est que nous vivions en famille, car c'est dans l'atmosphère aimante d'un intérieur chrétien que l'enfant peut le mieux se développer. Beaucoup de gens sans enfants pourraient faire une bonne œuvre en prenant soin de ceux des autres. Au lieu de passer leur temps à soigner et à dorloter des animaux, qu'ils s'occupent plutôt de petits-enfants dont ils peuvent façonner le caractère à la ressemblance divine. Qu'ils reportent leur amour sur les déshérités de la famille humaine et s'efforcent de les élever en les instruisant et en les avertissant selon le Seigneur. Beaucoup se feraient ainsi un grand bien à eux-mêmes. Pourquoi la responsabilité incombe d'abord à l'Église? Dieu nous a confié le soin des pauvres et de ceux qui souffrent. Nous devons agir à leur égard comme le Christ a agi envers nous. Le Seigneur désire que cette œuvre s'accomplisse dans les différentes églises plutôt que dans des institutions, car cela priverait l'Église de la mission qui lui a été confiée. Lorsque des pères et des mères meurent et laissent derrière eux des enfants, l'Église doit en prendre soin. Ouvrez vos cœurs, vous qui connaissez l'amour de Dieu, et recueillez-les dans vos maisons. Orphelinat. Quand on a fait tout ce qu'on devait faire en accueillant des orphelins dans nos foyers, il reste encore dans le monde de nombreux nécessiteux dont nous devons nous occuper. Ils peuvent être déguenillés, grossiers et peu intéressants sous bien des rapports, mais ils ont été rachetés et ils sont aussi précieux aux yeux de Dieu que nos propres enfants. Ils sont la propriété de Dieu et les chrétiens en sont responsables. Le Seigneur dit « Je te redemanderai leur âme ». S'occuper des déshérités est une bonne œuvre. Cependant, au temps où nous vivons, le Seigneur ne nous a pas donné, en tant que peuple, des directives pour fonder de vastes et dispendieuses institutions à cet effet. Si, toutefois, parmi nous quelques-uns se sentent appelés à ouvrir des orphelinats, qu'ils agissent selon leurs convictions. mais en s'occupant des pauvres du monde, ils devront faire appel au soutien financier des gens du monde. Ils ne doivent pas compter sur le peuple auquel le Seigneur a confié l'œuvre la plus importante qui ait jamais été confiée aux hommes, celle qui consiste à porter le dernier message de miséricorde à toute nation, tribu, langue et peuple. Le trésor du Seigneur doit avoir des réserves pour soutenir l'évangélisation dans les terres lointaines. Que ceux qui se sentent poussés à fonder des institutions de ce genre aient des quêteurs avisés pour présenter leurs besoins et trouver des fonds. Que les gens du monde, que les églises, soient sollicités par des hommes qui sentent la nécessité de faire quelque chose en faveur des pauvres et des orphelins. Dans chaque église, il y a des âmes qui craignent Dieu. Qu'on fasse appel à elles, car Dieu leur a confié cette œuvre. Le but de ces orphelinats ne doit pas être uniquement de procurer aux enfants la nourriture et le vêtement, mais de leur apprendre à connaître Dieu et Jésus-Christ. Ceux qui travaillent dans cette branche devraient être des hommes et des femmes au cœur généreux, enthousiasmés par la croix du calvaire, cultivés, prêts au sacrifice, travaillant comme le Christ a travaillé pour la cause de Dieu et celle de l'humanité. Petites institutions familiales, pour que de telles institutions soient efficaces, il faudrait qu'elles soient calquées sur le modèle d'un véritable foyer chrétien. Plutôt que de vastes établissements, groupant un grand nombre d'enfants, il serait préférable d'avoir plusieurs petites institutions. Au lieu d'être à la ville ou dans le voisinage d'un grand centre, on devrait établir celle-ci à la campagne, à proximité de terres cultivables, où les enfants seraient en contact avec la nature et pourraient également bénéficier d'un enseignement professionnel. Ceux qui auraient la responsabilité de telles institutions seraient des hommes et des femmes cultivés, magnanimes, désintéressés, travaillant par amour pour le Christ. Entourés de soins, beaucoup d'enfants négligés et sans foyer pourraient devenir des membres utiles de la société, être en honneur au Christ et soulager à leur tour la misère de leurs semblables. Importance de rechercher les conseils. Dieu ne bénira pas ceux qui agissent sans rechercher les conseils de leurs frères. On ne peut avoir confiance dans un adventiste qui croit tout savoir et veut suivre son propre jugement. Il ne marche pas dans la lumière comme le Christ est dans la lumière. Il en est beaucoup qui n'ont pas une vue correcte dans ce qu'ils font. Les hommes ont besoin d'avoir des idées claires, une profonde spiritualité. Dieu désire que chacun fasse preuve de bon sens dans son service, pesant les mobiles qui le poussent à agir. Si nous obéissons aux instructions du Seigneur, la parole de Dieu abonde en instructions relatives à notre attitude à l'égard de la veuve et de l'orphelin, de l'indigent et de celui qui souffre. Si tous obéissaient aux injonctions bibliques, le cœur de la veuve tressaillirait de joie, les petits-enfants affamés seraient rassasiés, ceux qui sont nus seraient vêtus et ceux qui sont sur le point de périr seraient vivifiés. Les intelligences célestes nous observent, et lorsque, animés de zèle pour l'honneur du Christ, nous nous abandonnons aux soins de la providence divine, ces messagers d'en haut nous communiquent une nouvelle force spirituelle, en sorte que nous puissions affronter les difficultés et triompher des obstacles. Chapitre 28. Adoption d'enfants. Que des familles adoptent des enfants. Une œuvre spéciale doit être accomplie pour les enfants plus avancés en âge. Que les familles adventistes qui le peuvent adoptent ces enfants et elles en recevront des bénédictions. Il en est qui n'ont pas d'enfants et qui pourraient faire beaucoup de bien en adoptant. Ceux sur qui ne repose pas la responsabilité de proclamer la parole de Dieu et de travailler directement au salut des âmes peuvent s'engager dans d'autres branches de l'œuvre. S'ils sont consacrés au Seigneur et qualifiés pour modeler l'esprit humain, ils auront la bénédiction d'en haut en se chargeant des enfants des autres. Mais nous devons tenir compte en premier lieu de ceux des croyants. Il y a parmi les observateurs du sabbat un très grand nombre de familles nombreuses dont on ne s'occupe pas. Beaucoup de parents donnent la preuve qu'ils n'ont pas appris du Christ les leçons qui feraient d'eux les sûrs gardiens de leurs enfants. Ceux-ci n'en reçoivent pas l'enseignement approprié. Et il y a parmi nous bien des enfants que la mort a privés des soins de leurs parents. Il en est qui pourraient s'en charger et chercher à former leur caractère, selon les principes bibliques. Dieu a en ce monde un peuple, et il en est beaucoup qui peuvent adopter des enfants et en prendre soin comme si c'était ceux du Seigneur. Enfants de croyants, le Seigneur voudrait que chaque église comprenne l'obligation religieuse qui lui incombe en adoptant les bébés des parents morts dans la foi. Que des familles prennent chez elles ces petits orphelins. Conseil à un couple sans enfants. Vous n'avez pas compris qu'il vous était demandé de vous intéresser aux autres, de vous mettre à leur place et de vous occuper des petits qui ont le plus besoin d'aide. vous ne vous êtes pas occupé de secourir ceux qui en avaient le plus besoin. Si vous aviez eu des enfants nécessitant vos soins et votre affection, vous ne vous seriez pas tant replié sur vous-même en pensant à vos propres intérêts. Si ceux qui n'ont pas d'enfants et que Dieu a établi économes de ses biens consentaient à s'occuper des petits qui ont besoin d'affection et d'être assistés par les biens de ce monde, ils seraient bien plus heureux. Aussi longtemps que les jeunes qui ne jouissent pas des soins paternels ni de la tendresse d'une mère sont exposés aux influences corruptrices des derniers jours, c'est le devoir de quelques-uns de remplacer leur père et leur mère. Apprenez à leur témoigner de l'affection et de la sympathie. Tous ceux qui professent avoir un père dans les cieux, sur lequel ils peuvent compter et qui finalement les prendra dans la demeure qu'il leur a préparée, doivent avoir le sentiment qu'une obligation solennelle repose sur eux. Ils seront les amis de ceux qui en sont dépourvus, des pères pour les orphelins, des protecteurs pour les veuves et des bienfaiteurs de l'humanité en se rendant utiles en ce monde. Beaucoup n'ont pas vu ces choses sous leur vrai jour. S'ils ne vivent que pour eux-mêmes, ils n'auront de force que pour cela. Est-ce la volonté de Dieu ? L'adoption d'un enfant, spécialement un bébé, comporte une sérieuse responsabilité. On ne saurait la considérer à la légère. Chacun doit se poser cette question. En agissant ainsi, est-ce que je satisfais simplement mon propre désir ou est-ce un devoir que le Seigneur m'a prescrit ? Est-ce sa volonté ou la mienne ? Nous devons tous être ouvriers avec Dieu. Nul n'échappe à cette règle. Vos talents ne vous appartiennent pas. Vous ne pouvez les employer au gré de votre fantaisie. Demandez-vous, qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse des talents qu'il m'a confiés ? Pesez les mobiles. Nous devons sonder sérieusement nos cœurs et peser nos mobiles. L'égoïsme peut nous amener à faire ce qui paraît à nos yeux désintéressé et digne d'être accompli. La raison qui en pousse plusieurs à adopter des enfants, le désir d'avoir quelqu'un sur qui porter son affection, prouve que leur cœur n'est pas centré sur le Christ, ni absorbé par son œuvre. Ibidem. Les pasteurs doivent-ils adopter des enfants ? On m'a posé la question suivante. Une femme de prédicateur devrait-elle adopter de petits-enfants ? Voici ma réponse. Si elle n'a aucune inclination, aucune capacité pour faire du travail missionnaire en dehors de son foyer, si elle a le sentiment que son devoir est de prendre des orphelins et de se dévouer pour eux, elle peut accomplir une bonne œuvre. Mais que le choix des enfants se fasse d'abord parmi ceux dont les parents étaient observateurs du sabbat. Dieu bénira les personnes qui partageront généreusement leur foyer avec ses déshérités. Mais si la femme du prédicateur peut elle-même prendre une part active à l'œuvre qui consiste à éduquer d'autres personnes, elle devrait y consacrer ses facultés, être la véritable auxiliaire de son mari en l'assistant dans son ministère, en se perfectionnant intellectuellement et en collaborant à la proclamation du message. La voie est ouverte devant les femmes humbles et consacrées, ennoblies par la grâce du Christ, pour visiter ceux qui ont besoin d'assistance et apporter la lumière aux âmes découragées. Elles peuvent relever ceux qui sont abattus en priant avec eux et en leur montrant le Christ au lieu de consacrer leur temps et leur force à un petit être qui réclame des soins constants. Elles ne devraient pas se lier ainsi les mains volontairement. Dieu a peut-être retiré sa bénédiction. Une famille bien organisée, bien disciplinée, exercera une puissante influence pour le bien. Mais si vous n'avez pas d'enfants, il se peut que le Seigneur ait de bonnes raisons de ne pas vous accorder cette bénédiction. Il ne faudrait pas en conclure que c'est la preuve que vous devriez en adopter un. Cela ne pourrait être vrai qu'en certains cas. Si le Seigneur vous demande d'élever un enfant, alors n'hésitez pas. Mais en général, il ne serait pas sage pour une femme de pasteur de se charger d'une telle responsabilité. Si une femme de pasteur seconde son mari dans l'œuvre du salut des âmes, elle se livre à l'occupation la plus importante qui soit. Les soins d'un petit être risqueraient de l'absorber au point qu'elle ne puisse plus assister aux réunions et faire des visites missionnaires. Même si elle accompagnait son mari, l'enfant serait trop souvent un sujet de conversation et les visites s'en ressentiraient. Ceux que le Seigneur a appelés à être ses collaborateurs ne sauraient avoir d'idoles qui détournent et absorbent leurs pensées et leur affection. Gardez une juste notion de ses responsabilités. Nous devons avoir une haute idée de l'œuvre que nous accomplissons. N'assumons pas un fardeau trop lourd en prenant soin d'un bébé. Cette œuvre doit être faite par d'autres. Nous avons une œuvre spéciale consistant à éduquer des enfants plus âgés. Que les familles qui le peuvent adoptent ces petits. Elles en recevront des bénédictions. Chapitre 29. Le soin des personnes âgées. Respectueusement et tendrement soignés, un autre problème souvent évoqué est celui des soins que nous devons prendre de nos frères et de nos sœurs âgés et sans foyer. Que pouvons-nous faire pour eux ? Les instructions que le Seigneur m'a données m'ont été répétées. L'idéal ne consiste pas à établir des maisons de vieillards où ils puissent jouir de la compagnie les uns des autres. Ils ne devraient pas non plus être obligés de s'éloigner de leur demeure pour qu'on s'occupe d'eux. Que les membres de chaque famille prennent soin de leurs propres parents. Quand ce n'est pas possible, cette tâche incombe à l'Église, qui devrait l'accepter à la fois comme un devoir et comme un privilège. Tous ceux qui ont l'esprit du Christ témoigneront de la tendresse et un intérêt spécial à ceux qui sont faibles et âgés. Rester parmi les amis et les parents. Les vieillards ont eux aussi besoin des influences bienfaisantes de la famille. Qu'ils trouvent au foyer de leurs frères et de leurs sœurs en Christ la consolation d'avoir perdu le leur. Si vous leur permettez de s'intéresser aux activités de la famille et de participer aux occupations du ménage, ils auront le sentiment de n'être pas inutiles et de pouvoir encore faire quelque chose. Dites-leur que vous appréciez leur aide, cela réjouira leur cœur et donnera un but nouveau à leur existence. Les personnes dont les cheveux blancs et la démarche incertaine indiquent la fin prochaine devraient autant que possible trouver asile chez leurs amis, dans un endroit qui leur soit familier. La présence sous notre toit de ces personnes âgées est une occasion précieuse de collaborer avec le Christ dans son œuvre de miséricorde et de développer des traits de caractère semblables aux siens. Une bénédiction repose sur l'association des vieux et des jeunes. Ceux-ci peuvent apporter un rayon de soleil dans le cœur des vieillards qui, au moment où la vie va bientôt leur échapper, ont besoin du contact de leur enthousiasme et de leur optimisme. En retour, les jeunes profiteront des leçons de sagesse et d'expérience que leur donneront leurs aînés. Ils ont surtout besoin d'apprendre à accomplir un service désintéressé. La présence d'un être ayant besoin de sympathie et d'indulgence serait pour bien des foyers une bénédiction inestimable. Elle adoucirait et raffermirait la vie de famille et ferait naître chez les jeunes comme chez les plus âgés les grâces chrétiennes qui les illumineraient d'une beauté divine et les enrichiraient des trésors impérissables. Les institutions ne sont pas ce qu'il y a de meilleur. Les hommes ne devraient pas employer leur temps et leur talent à recueillir des personnes âgées ou des orphelins pour les nourrir et les vêtir. Ce n'est pas la meilleure manière de les aider. Il n'est pas davantage convenable de construire des maisons destinées aux vieillards. Que l'on s'en occupe à l'endroit même où ils se trouvent. Que les familles prennent soin des leurs et que l'Église s'occupe de ceux qui dépendent d'elle. C'est là l'œuvre que le Seigneur aimerait lui voir accomplir. Elle en recevrait la bénédiction. Chapitre 30. Notre responsabilité envers les aveugles. Traitez les aveugles avec compassion. Le Seigneur désire que ceux qui se sont engagés dans l'œuvre médicale soient de vrais missionnaires. Ils doivent imiter le Christ dans leurs paroles et dans leurs actes. Qu'ils n'usent pas seulement de miséricorde quand ils s'y sentent poussés et n'agissent pas égoïstement envers ceux qui méritent le plus de bénéficier de leur ministère. Les aveugles, par exemple, doivent être traités avec compassion. Que les missionnaires médicaux exercent leur action à leur égard, afin de pouvoir se rendre compte, en tant que serviteurs de Dieu, de ce qu'ils n'ont pas fait pour ces infortunés. D'après ce qui m'a été montré, je sais qu'en de très nombreux cas, ceux-ci n'ont pas reçu l'encouragement que le Christ leur aurait donné s'il avait été à la place de nos missionnaires médicaux. Le Seigneur prend note de ces négligences. Chacune de ces mauvaises actions représente mal sa miséricorde, sa bonté et sa bienveillance. J'ai reçu ces instructions. Veillez attentivement, avec prière, consciencieusement, de peur que votre esprit ne soit absorbé par les multiples occupations de ce monde, au point que la véritable piété soit perdue de vue et que l'amour se refroidisse, au détriment des grands besoins des aveugles et des infortunés pour lesquels vous devez être la main secourable de Dieu. Ce sont les plus déshérités qui réclament notre plus grande attention. Employez votre temps et votre force à apprendre à être fervent d'esprit, à agir avec justice, à user de miséricorde, à servir le Seigneur. Souvenez-vous des paroles du Christ. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Manuscrit 109, 19. Si le Seigneur est l'ami des aveugles et des malheureux, il n'excuse pas pour cela leurs péchés. Il exige qu'ils soient victorieux et forme un parfait caractère chrétien au nom de Jésus qui vainquit pour eux. Mais le Sauveur a pitié de notre faiblesse, et il est prêt à nous donner la force de supporter l'épreuve et de résister aux tentations de Satan, si nous voulons déposer sur lui nos fardeaux. Les anges protègent les aveugles. Les anges sont envoyés pour exercer un ministère en faveur des enfants de Dieu qui sont aveugles physiquement. Ils protègent leurs pas et les sauvent des multiples dangers qui jalonnent leurs sentiers et qu'ils ignorent. Mais l'Esprit de Dieu ne les assistera que s'ils cultivent la bonté et cherchent sincèrement à dominer leur nature, leurs passions et soumettent à la volonté du Seigneur toutes leurs facultés. Ils doivent manifester un esprit d'amour, contrôler leurs paroles et leurs actes. Il m'a été montré que Dieu exige de son peuple qu'il soit bien plus sensible à la pitié envers les malheureux qu'il ne l'est en réalité. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Voilà la définition de la véritable religion. Dieu veut que la même considération accordée aux veuves et aux orphelins soit aussi accordée aux aveugles et à ceux qui sont affligés d'autres infirmités. La bienfaisance désintéressée est très rare dans le monde à notre époque. Gardien des déshérités. Si, dans l'Église, il se trouvait quelqu'un qui fasse trébucher un aveugle, il devrait être traduit en justice, car Dieu nous a fait les gardiens des aveugles, des veuves et des orphelins. Lorsqu'il est dit dans la parole de Dieu « Tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber », il ne s'agit pas d'une bûche de bois placée devant lui, mais de choses plus importantes. C'est tout ce qui pourrait porter atteinte à l'influence de cet aveugle, travailler contre ses intérêts ou nuire à sa prospérité. Un frère qui est aveugle, pauvre et malade, et fait tout ce qu'il peut pour subvenir lui-même à ses besoins, afin de ne dépendre de personne, doit être encouragé le plus possible par ses frères en la foi. Ceux qui professent être ses frères, qui jouissent de toutes leurs facultés, qui ne dépendent de personne, mais qui sont loin d'accomplir leur devoir envers un aveugle en facilitant sa tâche, font une œuvre qui exige la repentance et la restitution avant que le Seigneur accepte leurs prières. Et l'Église de Dieu qui a permis que ses malheureux frères soient lésés sera coupable de ce péché tant qu'elle n'aura pas fait l'impossible pour redresser ses torts. Le point de vue de la miséricorde. J'aimerais que vous puissiez tous voir de la même manière que le Seigneur, que vous compreniez comment Dieu considère ceux qui se disent disciples du Christ, qui jouissent de la vue et des avantages qu'elle offre, et qui cependant convoitent l'humble prospérité dont bénéficie un pauvre aveugle. Ils voudraient en profiter eux-mêmes, augmenter leur avoir aux dépens de leurs frères affligés. Dieu considère cela comme un crime et un vol abominable. C'est un grave péché, qu'il punira certainement. Dieu n'oublie jamais. Il ne voit pas ces choses à la manière des hommes, froidement, sans en être touché. Il ne les considère pas en adoptant le point de vue mondain, mais celui de la miséricorde, de la pitié et de son amour infini. L'aveugle est souvent maltraité. Le Seigneur agira envers les hommes comme ils ont agi envers ceux qui réclamaient leur aide. Il m'a été montré que l'aveugle avait été souvent traité sans miséricorde. La véritable sympathie entre l'homme et ses semblables doit être le signe qui distingue ceux qui aiment et craignent Dieu de ceux qui ne font aucun cas de sa loi. S'acquitter de ses responsabilités à l'égard des déshérités, il est étrange que ceux qui se disent chrétiens s'écartent des enseignements clairs et positifs de la parole de Dieu et n'aient aucun scrupule. Dieu leur confie la responsabilité de s'occuper du malheureux, de l'aveugle, du paralytique, de la veuve et de l'orphelin. Mais beaucoup ne font aucun effort en ce sens. Pour leur salut, Dieu les frappe fréquemment de la verge de l'affliction. Il les place dans des situations semblables à celles par où passent les personnes qui ont besoin de leur aide et de leur sympathie, mais qu'il leur refuse.